Bonjour à tous. Nous attendions un petit peu, mais je pense qu'on va démarrer. En fait, donc Jean-Laurent Del Socorro, qui est un auteur qui doit participer à notre conférence, à notre table ronde, est actuellement à la télévision, Vosges Télévisions, donc. Et j'avais été prévenue qu'il serait un tout petit peu en retard, mais apparemment, il va être beaucoup en retard, je pense, puisque je ne le vois pas arriver. Donc, je pense qu'on va quand même démarrer. Et puis, il nous rejoindra en cours de route. Hein. Le chauffeur, à un moment donné, va le déposer, puis il arrivera en courant. Donc, on verra. Donc, on va déjà commencer à aborder donc le thème de cette table ronde, qui est « Faire rêver son lecteur ». Avec Cillian Edgar, voilà, dont le dernier roman, donc... Attendez, je l'ai quelque part par là. Donc, c'est... Adèle et les noces de la reine Margot, voilà. Avec des titres longs comme ça, ça m'embrouille. Mais qui, par ailleurs, a évidemment écrit d'autres ouvrages, qui a écrit des textes à la fois pour la jeunesse et en adulte. Hein, donc on peut notamment citer 1414, donc était plutôt là en littérature jeunesse, ou Fortune Cookies, par exemple. Régis Godin, qui est donc déjà venu aux Imaginales, et qui, lui, a essentiellement travaillé sur Le sang des sept rois, donc une longue saga, puisque là, pour l'instant, on est au tome 5 qui est paru, et si j'ai bien compris, ça devrait aller jusqu'à 7. Voilà. Donc, faire rêver le lecteur. Donc, vaste, vaste programme. Alors, Silène, je voulais commencer par vous poser une question. Avant de faire rêver le lecteur, dans Adèle, vous faites carrément vous rêver votre personnage. Donc, racontez-nous un petit peu cette histoire d'Adèle qui rêve.
Alors, Adèle est une jeune fille comme une autre qui est assez triste au début du roman parce qu'elle a perdu sa grand-mère. Bon, situation classique. Sauf que ses parents étant très occupés par leur travail, elle se retrouve très seule. Alors, elle a 13 ans, hein, elle peut s'occuper d'elle toute seule. Donc, du coup, elle se retrouve à passer ses vacances de la Toussaint toute seule. Toute seule plus ou moins puisque le prof de français un petit peu vachard leur a donné un énorme bouquin à lire pour les vacances puisqu'ils doivent lire La Reine Margot d'Alexandre Dumas. Elle n'aime pas spécialement lire. Le livre est énorme, c'est un petit peu compliqué pour elle et puis n'ayant rien à faire, elle se lance dedans. Et en fait, elle en rêve. Elle se retrouve à l'époque de La Reine Margot aux noces. Jusque-là, rien d'incroyable, sauf que le rêve va se poursuivre, en fait, qu'elle va y retourner de nuit en nuit et y trouver ce qu'elle ne trouve pas dans sa vie réelle.
Et justement, donc, elle est en 2015 le jour et en 1572 la nuit. Est-ce que finalement, à force de se retrouver happée par le passé, est-ce qu'on ne risque pas de perdre pied avec le réel ?
Si, c'est l'objectif du livre, c'est de montrer qu'en fait, elle rencontre un jeune homme dans son rêve, hein, ce qui est déjà pour cette jeune fille quelque chose de nouveau, d'excitant. Il la fait danser, il lui parle sérieusement, il la prend au sérieux, surtout ce qui n'arrive pas dans sa vie réelle. Et puis elle se trouve un rôle, en fait. Hein, tout d'un coup, elle est l'héroïne de roman. Sauf que ce roman se corse puisque juste après les noces de la reine Margot, c'est la Saint-Barthélemy. Et là, le rêve bascule. Elle rencontre Ambroise Paré, qui est chirurgien. Son papa est docteur. Et donc, elle trouve aussi une sorte de père de substitution dans son rêve qui, lui aussi, la prend au sérieux alors que son propre père a bien du mal à communiquer avec elle. Et finalement, pourquoi pas le rêve plus que la réalité, puisque ce rêve, tout angoissant qu'il est, semble tout de même la nourrir plus. En tout cas, elle y a un rôle à jouer. Alors que dans son quotidien, elle a l'impression d'être seule et de ne servir à rien, en fait.
Régis, pour faire rêver le lecteur, avec cette grande saga, des sept royaumes. Là, on est plutôt sur un monde qui se déploie, qui se développe, des intrigues qui évoluent, et sur la création de tout un monde, finalement. Donc, quelle est la difficulté d'arriver à créer tout ça? Puisque dans le tome 1, en fait, le monde était plutôt brossé à un trait assez rapide. C'était plus les personnages qui comptaient. Et puis, petit à petit, tout ça, ça se développe. Oui.
Alors, la difficulté, il n'y en a pas, en réalité. Je suis désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas difficile du tout. Parce que à l'origine, il n'y a pas de monde. Il y a juste, tel que ça démarre, un enlèvement d'enfants, voilà. Et au démarrage, je ne sais pas du tout où ça va aller, cette histoire-là. Je ne sais pas qui sont les enfants, je ne sais pas pourquoi ils ont été enlevés, et je ne sais pas non plus qui va partir derrière. Donc, ce qui fait qu'au fur et à mesure que l'histoire se déploie, se développe, c'est un petit peu ça se construit, voilà, ça se construit en allant. Et effectivement, là on arrive maintenant sur une série qui va être extrêmement longue, mais au moment de l'écrire, je n'avais aucune visibilité sur le volume de l'ensemble de la saga. C'est-à-dire que on s'est retrouvé avec l'éditrice Myriel Rivalan il y a 3 ans maintenant, hein, 3 ans ici, avant la sortie donc du premier tome, et puis elle m'avait posé la question quelques semaines avant en me disant, mais ça, il y aura combien de tomes dans cette histoire-là? Et j'en savais absolument rien. Et on l'a décidé, dans les fauteuils, là-bas, un petit peu, dans les fauteuils, sous la bulle. Et elle me dit, mais alors, finalement, ça va faire combien de tomes maintenant, cette histoire-là, pour qu'on puisse annoncer, pour que les lecteurs puissent avoir une visibilité? Et bon, j'avais essayé de simuler un peu, j'avais dit, bon, 5, ça risque de pas tenir, 6, peut-être 7. Elle m'a dit, c'est parfait, 7 tomes, 7 rois, 7 royaumes, c'est très bien comme ça. Et donc, on est parti sur cette contrainte, alors que finalement, pour répondre vraiment à la question, j'ai jamais ressenti de difficulté parce qu'à un moment donné, un nouveau personnage arrive. Voilà, je ne sais pas forcément d'où il vient, mais il faut lui inventer son histoire. À un moment donné, dans le tome 1 par exemple, un personnage qu'on avait croisé, qui était un personnage vraiment secondaire, va intervenir, va arriver sur la plage à un moment donné. Au moment où j'écris son nom, je ne sais pas que c'est lui. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de difficulté à créer l'univers parce qu'on n'anticipe pas quand on écrit de manière comme un scripturant, si vous voulez. On ne fabrique pas de structure, on avance un petit peu au fur et à mesure de l'histoire. Et bon, maintenant que ce personnage, je ne vous dirai pas son nom parce que s'il y en a qui entament la lecture, ça va dévoiler un petit peu des choses importantes. Mais quand ce personnage arrive derrière le héros sur la plage, je ne sais pas qui c'est. Et à partir de ce moment-là, il faut que je le découvre. Et c'est pour ça que le personnage va se mettre à parler et va expliquer ce qu'il fait là. Et donc, finalement, il n'y a pas une très grande difficulté à concevoir un univers même aussi complexe que celui-ci, parce qu'il se fabrique lui-même, il s'autogénère en fonction des situations. Par exemple, un exercice d'écriture qu'on pourrait faire assez facilement pour bien illustrer et vous aider à comprendre, on imagine, par exemple, qu'un chevalier est devant une forêt et qu'il va la traverser. C'est le début du chapitre. Quand on est scripturant, on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans la forêt, mais on sait qu'il va se passer quelque chose. Donc au début, il va avancer, il y aura forcément un peu de ronce, parce que sinon c'est pas très médiéval, et puis après, il se passe quoi. Et en fonction de ce qui va se produire, on verra bien si c'est le cheval ou le guerrier qui sort de l'autre côté de la forêt. Mais quand on commence à l'écrire, on n'en sait rien. Et forcément, ça va infléchir sur toute la suite de l'histoire. Là, j'en suis par exemple à proposer à des gens de mon entourage d'inventer un personnage. Donc là, il y a des blogueuses que j'ai rencontrées tout à l'heure, que j'ai croisées l'année dernière, qui m'ont inventé une oie. Voilà, il fallait que ce soit une oie, il fallait une zombie et une oie. Alors la contrainte est arrivée, maintenant à moi d'en faire quelque chose. Donc il n'y a pas vraiment de difficulté, parce que c'est un jeu en fin de compte. C'est vraiment un jeu qui se fabrique en même temps que l'univers se déploie et se développe. Voilà.
Donc on peut dire qu'avant de faire rêver finalement les lecteurs, vous vous faites rêver vous-même.
Oh oui, complètement. Sinon, on ne le ferait pas. Hein. On ne le ferait pas. C'est pas les masses d'argent que nous gagnons en faisant de la littérature de fantasy française qui justifierait autant de centaines et de milliers d'heures de travail. Donc c'est vraiment le plaisir de se raconter une histoire à soi-même. Hein, et au fur et à mesure qu'on invente l'histoire pour soi, par plaisir, elle se raconte aussi pour les autres. Voilà, c'est un partage de ce côté-là. Mais effectivement, là, j'ai une petite idée de comment ça se termine, mais ça change tous les mois. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Donc c'est pas difficile d'imaginer la fin parce que je verrais bien, en spectateur presque, hein, comment ça va se fabriquer. Je conçois par contre pour que les gens qui sont très structurants, qui fabriquent des structures et qui ensuite les remplissent, que ça nécessite un très très gros travail a priori avant de commencer à écrire. Mais c'est vraiment une toute autre approche, hein, et on choisit pas si on est structurant ou scripturant, c'est-à-dire si on invente au fur et à mesure ou si on fabrique une structure et qu'on va remplir à l'intérieur. Je risque dans un autre projet que je voudrais mettre en œuvre, qui est lié à celui-ci mais par la suite, d'approcher une autre difficulté qui est le roman historique. Et dans le roman historique, je pense que ça va me mettre dans une autre difficulté, parce que là je ne pourrais pas tout inventer en allant, puisque l'histoire existe. Et je crois qu'effectivement, dans la dimension du rêve, de faire rêver le lecteur et de lui faire plaisir, c'est très différent aussi si on s'inscrit dans un cadre historique dans lequel finalement l'histoire est connue. On sait à quelle date les personnages, la reine Magou va mourir, je suppose, on doit connaître sa date de décès, sa date de mariage, etc. On s'inscrit dans une structure préexistante. Je ne sais pas si je vais m'y plaire aussi bien que dans un récit qui est complètement dans l'imaginaire. Voilà.
Oui, parce qu'il y a dans l'exemple des personnages, il y avait le personnage de Rosa au départ qui arrivait un petit peu comme ça et puis qui n'était pas forcément destiné à être développé.
Absolument. Alors Rosa, c'est un des multiples accidents donc de ce récit. De la même manière que le personnage qui arrive derrière Orville sur la plage, je ne savais pas qui c'était. Rosa, c'était juste une espèce d'illustration en quelque sorte de la cruauté des théocrates qui sont, enfin c'est le clergé donc de cette histoire-là. Et elle devait se faire rattraper tout simplement, une pauvre petite nana dans son coin de campagne, monter sur le bûcher, être brûlée, bien n'en parler plus. Et puis finalement, je ne sais pas trop pourquoi, mais arrivé au tome 7 maintenant que je commence à écrire, elle est toujours là. Elle a gagné sa place en fait. Elle a gagné sa place et à un moment donné, les personnages s'imposent où finalement on s'aperçoit parfois aussi qu'on a tout dit d'un personnage. On a fait le tour d'un personnage et qu'il a exprimé tout son potentiel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez étrange parce que c'est très intuitif. À un moment donné, on est parfaitement heureux qu'un personnage et à un moment donné, on n'a plus rien à lui faire dire. On l'a épuisé, on l'a pressé jusque. Il n'y a plus de jus. Et c'est le moment où on choisit parfois pour le faire disparaître parce que ça en relance d'autres. Rosa, à contrario, c'est quelqu'un qui devait juste être une illustration de la cruauté, de l'inquisition. Et puis finalement, Rosa est vivante et c'est l'inquisition qui a disparu. Voilà. Ce sont des accidents de trajet dans la narration, des accidents de narration. Voilà. Qui illustrent assez bien, effectivement.
Alors, vous avez abordé donc le thème du roman historique, donc ça me permet de revenir vers Silène, puisque là, il y a une grande part historique dans l'histoire d'Adèle, dans les années 1572, donc la Saint-Barthélemy, tout ça qui sont des événements historiques, donc... Comment est-ce que vous avez travaillé pour construire tout cet environnement-là? Et justement, Régis se définissant finalement pas comme un écrivain structurant, donc qui prépare son travail en amont, quelle est votre façon de travailler?
Sur Adèle, ce qui a été particulier, c'est que je ne suis pas partie de livres d'histoire, je suis partie d'autres œuvres d'art. J'aimais beaucoup La Reine Margot, le film de Chéreau. J'avais lu le texte de Dumas. J'ai beaucoup aimé La Princesse de Montpensier aussi. J'avais lu Jeunette, toute la série là, sur le médecin au 16e, dont j'ai mangé le nom. Enfin, il y a toute une série de romans. Donc, je suis partie de là et après... j'ai rassemblé mes souvenirs, je suis allée vérifier quand même que je racontais pas n'importe quoi et que les auteurs avant moi n'avaient pas non plus fait de boulettes. Ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple l'assassin de Coligny, Dumas lui a donné un nom qui n'est pas le nom réel de l'assassin. Mais bon, je cite Dumas, donc je garde Maurevel comme nom. Donc pour Adèle, je n'ai pas fait énormément de recherches a priori, c'est venu après. Par contre, quand on a travaillé avec Paul Béhand sur 14-14, là, on est vraiment parti, on a fait énormément de recherches. Pas seulement dans les livres. Paul connaissait la région puisqu'il a vécu à Laon où se passe notre intrigue. Et puis moi, j'ai énormément interrogé mes grands-parents. Et c'était aussi un des objectifs pour moi personnel. Hein. Je me suis dit, bon voilà, moi, ça m'a beaucoup touché que mon grand-père me raconte sa jeunesse, qu'il avait vécu, d'autant qu'il n'avait pas spécialement raconté à ses enfants. Et je me suis fait passeuse de mémoire, je me suis dit, et Paul était dans cette idée-là aussi, les enfants qui vont découvrir le centenaire en 2014, on va leur rabâcher les oreilles avec tout ça, ils n'ont pas de grands-parents. Pour leur raconter, la plupart des gens sont morts déjà, et donc on va avoir nous un rôle en tant qu'auteur de passeur. Il va falloir qu'on réussisse à donner du sens à ce centenaire pour que ça les intéresse, pour qu'ils comprennent pourquoi on essaye de leur passer cette mémoire-là. Et donc là, il a vraiment fallu qu'on fasse très attention à tous les détails pour ne pas faire de bêtises, ne pas dire de choses fausses.
Alors pour que le public comprenne, il faut peut-être rappeler en fait la thématique de 14-14 hein, entre ces deux enfants, ces deux Adrien, curieusement,
Oui.
ils portent le même prénom, qui communiquent par le biais de cette boîte aux lettres un peu mystérieuse. L'un vit en 2014 et l'autre vit en 1914.
On a utilisé ce petit twist pour faire, vous savez, peut-être quand vous étiez petit, vous aviez ces livres avec du temps de mon grand-père et sur l'autre page, il y avait aujourd'hui. Donc on avait envie de comparer 2014 et 1914. Et donc le premier, Adrien sans H, envoie une carte qui arrive en 1914 chez un autre Adrien qui a un H comme histoire et qui lui répond sans s'apercevoir au début de ce qui se passe, bon, même si c'est un peu bizarre cette histoire de basket. Voilà. Et donc ils échangent ces courriers. Et ils se nouent une amitié parce qu'ils ne sont pas si différents. Ils ont des problèmes avec leurs parents, avec leurs copines, avec l'école, c'est pas simple. Et au bout d'un moment, évidemment, ils s'aperçoivent que c'est pas normal tout ça. Mais du coup, ça nous permettait de montrer à nos jeunes lecteurs que les enfants en 1914 ne se doutaient pas que la guerre allait arriver, menaient leur petit train-train comme ils pouvaient et partageaient un certain nombre d'états d'âme avec les jeunes gens d'aujourd'hui. Après, évidemment, il y a toutes les différences qu'on a mis en avant sur voilà, la façon dont les enfants arrêtaient l'école très tôt, le fait qu'il n'y avait pas de sécurité sociale, que bon, tout ce qu'on peut imaginer sur 1914. Et surtout sur ce que la guerre de 1914-1918 a détruit, hein, parce que le roman s'arrête juste avant le début de la guerre.
Alors en parlant de guerre, il y en a une autre avec un autre Adrien d'ailleurs, un autre personnage dans Fortune Cookies.
Alors là, je suis partie plus comme toi, j'avais une idée, j'avais envie, et je trouve ça merveilleux en tant que romancier. On peut se poser des questions. On se pose souvent la question de oh là là, et si jamais il y avait une révolution, est-ce que je m'engagerais dedans? Est-ce que je ferais quelque chose? Oui, mais bon, il y a le quotidien, il y a aussi tout ce à quoi on tient, et en particulier, moi j'étais dans la question des enfants. Donc, quand j'avais 25 ans, que je montais sur les barricades pour défendre telle ou telle chose, que j'étais pas maman, c'était facile de m'engager. Maintenant, faut que je fasse garder les enfants si je veux aller manifester. Donc, c'est autre chose tout de suite. Donc, il y avait cette première question de se dire, et si ça allait mal tout d'un coup, qu'est-ce que je ferais? Et puis l'autre question de se dire, et si ça allait vraiment mal, c'est-à-dire si par exemple, les émeutes de 2005, moi qui m'ont beaucoup touchée parce que j'étais en Polynésie à ce moment-là. Donc je vous ai vu ici, j'ai appelé ma mère en disant mais t'es planquée sous l'évier. Quand je regarde les médias, j'ai l'impression que la France est à feu et à sang. Et c'était pas le cas. Mais à ce moment-là, je me suis dit et si ça basculait vraiment, comment ce serait? Et c'est de là qu'est né le livre. Alors après, par contre, moi j'ai beaucoup structuré. Ça a été vraiment l'objectif du livre. Mais il y a cette idée, oui, ce rêve un peu sombre qu'on peut faire de se demander et je ferai quoi, moi?
Alors, vous avez tous les deux écrit une nouvelle pour l'anthologie des Imaginales. Hein, donc, Régis, c'était dans Barthes et Sirènes, voilà, c'était l'année dernière. Et Silène, c'est dans Troll et Licorne, dans celle de cette année. Alors, est-ce qu'on peut aussi faire rêver le lecteur avec un texte court? Et comment ça se passe pour l'écriture? Régis, par exemple, donc là, du coup, on a quand même une grosse différence entre cette saga énorme de 7 tomes et puis finalement un texte court dans lequel on va faire passer quelque chose. Est-ce que le travail est le même et comment ça s'est passé pour vous?
Alors, c'est un travail qui m'a semblé plus difficile presque hein, que d'écrire un roman dans lequel on a beaucoup moins de contraintes. Hein. Le texte court, j'en écris très peu. Là, je viens d'en écrire une autre pour une autre anthologie au mois d'octobre. Mais c'est pour moi un exercice un petit peu atypique, hein, bien sûr. Par contre, j'en ai fait, on parlait d'engagement, j'en ai fait une nouvelle extrêmement politique, en réalité. extrêmement politiques dans lesquelles, effectivement, il y avait, c'était pas fait pour rêver. Il y avait des parties qui étaient un peu romantiques, des parties qui étaient un peu médiévales, une espèce de médiéval de carton-pâte, hein, comme on sait très bien faire. Et puis, à côté de ça, la suite, c'était en trois volets. La suite, c'était vraiment une critique assez qui donnait du sens, d'ailleurs, à la première partie, au premier chapitre de la nouvelle, et qui donnait qui parlait de la société de consommation, qui parlait de la société des médias spectacles, qui parlait aussi des violences, hein, qu'on peut se faire de l'indifférence, hein, face à la disparition et la souffrance des autres. Et puis ça se terminait par quelque chose de nettement plus post-apocalyptique, c'est-à-dire c'est le résultat un petit peu vers lequel ça nous avait mené, mais peut-être une touche d'espoir, parce qu'il y a toujours une touche d'espoir. Mais effectivement, c'est assez atypique, hein, parce qu'on passait d'un monde médiéval de troubadours et d'errance, hein, à un plateau de télévision qui était sur la Lune, dans un monde pollué et complètement corrompu. Et les racines de cette corruption allaient finalement s'inscrire dans les racines de l'homme et de l'humanité, parce qu'elle est déjà présente, hein, sous la forme de germes dans la première partie donc, de cette nouvelle. Elle a été curieusement appréciée, cette nouvelle, par les lecteurs, parce qu'on voit bien sûr sur Internet. Il y a des gens qui ont trouvé que c'était décalé. Forcément, c'est décalé. À partir du moment où on fabrique des frictions, des collisions, c'est beaucoup moins confortable à lire, hein, que quand on travaille sur des choses qui sont plus homogènes, plus cohérentes. On y lit aussi éventuellement des choses qu'on n'a pas envie de lire. Ce n'était pas l'histoire, effectivement, ce qui n'était pas le cas des autres nouvelles du recueil non plus. Il y a eu beaucoup de surprises, des choses très riches et très variées, dans lesquelles on avait des héros à contre-emploi. Hein, beaucoup de héros à contre-emploi, mais la question donc de la jolie sirène, qu'elle est charmée, le gendarme barde, hein, c'était franchement, pour le coup, c'était pas du tout ce que je souhaitais. Et je pense que je vais profiter des quelques occasions qui me sont données de travailler sur des textes courts dans lesquels je m'engage pas sur des années, pour effectivement délivrer un message plus engagé, hein, qui se retrouve dans le sang des sept rois. De toute façon, si on lit en diagonale, on va retrouver des questions sur les places de la femme dans la société, on va retrouver la question des minorités, on va retrouver énormément de choses qui sont très politiques aussi dans le sens de ces trois, comme à chaque fois qu'on construit des univers. Les univers, c'est avant tout une structure politique, hein, et dans cette structure politique, il y a des systèmes de valeurs, il y a des systèmes qui sont naturellement des transpositions des mondes dans lesquels nous vivons ici. Donc effectivement, je ne suis pas sûr d'avoir eu envie de faire rêver dans la nouvelle, parce que c'était un exercice dans lequel il m'a semblé que je pouvais prendre un risque. Prendre un risque, et c'était vraiment, pour le coup, beaucoup plus un texte court engagé politiquement, beaucoup plus qu'une nouvelle qui était là pour faire rêver, je pense.
Et est-ce que le travail d'écriture, là, pour le coup, a été un peu plus structurant ? Parce que là, on sent quand même qu'il y a un travail sur la structure entre ces trois parties qui peuvent se raccorder à des courants différents. La première partie, on est plus dans une espèce de fantaisie un peu médiévale, assez classique. La deuxième partie, on est presque dans la science-fiction. Et puis, la troisième partie, on est dans du post-apocalyptique. Là, c'est dans un même texte, sur trois époques différentes. Je pense que c'est ça aussi qui a peut-être des sonner les lecteurs. Et au niveau de la structure, comment ça s'est passé ?
Alors, d'abord, tant mieux si ça désarçonne à un moment donné. Ça veut dire que c'est pas une nouvelle qui est consensuelle. Hein. Y a des gens qui ont trouvé ça très intéressant, d'autres qui ont trouvé ça décalé, qui ont été heurtés, ou peut-être qui ont trouvé que c'était un peu vain dans un écrit d'imaginaire de parler de choses aussi politiques et aussi contemporaines. Mais peu importe, hein, ça fait partie du plaisir. Mais j'ai pas plus structuré que pour les autres, en fait. J'avais plusieurs idées. En fait, j'avais plusieurs idées. J'avais un monde, donc, d'une sirène dans un monde de fange, dans un univers post-apocalyptique. J'avais une idée, puisque c'est quand même un animal de spectacle, quand même, la sirène, hein, et de travailler sur une espèce de reality show, hein, quelque chose comme ça. Et j'avais une troisième idée qui était de travailler dans une approche beaucoup plus traditionnelle du monde de trouvères, de troubadours et de licornes. Et donc, je crois que c'est à un moment donné, à force d'avancer, de noter des idées, je me suis dit, et pourquoi pas finalement faire passer quelque chose en exploitant ces trois univers d'une manière successive, chronologique en quelque sorte, de manière à ce que la structure qui est née de l'écriture fasse sens autant que les trois chapitres isolés les uns par rapport aux autres. Et c'est ça qui m'a intéressé vraiment. J'avais trois idées et à un moment donné, j'ai eu envie de les mettre toutes les trois en même temps pour que la structure fasse un sens. Alors, quand on dit qu'on est structurant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de structure. Ça veut dire qu'à un moment donné, les structurants fabriquent une structure et ils vont écrire ensuite, et Pierre Pevel disait l'année dernière sur une table ronde, que c'était un autre métier. Il a un métier pour fabriquer donc la structure et un autre métier pour écrire le livre. Et ça, je le comprends tout à fait. Quand on travaille sur, en tant qu'écrivain structurant, enfin scripturant, c'est-à-dire qu'on invente en écrivant, c'est l'écriture qui structure. Ce qui veut dire qu'on aboutira à des livres qui sont complètement différents, et la nouvelle en est bien une illustration, parce que compte tenu qu'on ne sait pas d'avance quelle sera la structure, ça ne signifie pas qu'il n'y en aura pas une, mais ça signifie qu'elle va se construire malgré nous, en quelque sorte. Donc ça donne effectivement des choses qui sont peut-être plus inattendues, parfois un petit peu aussi inattendues et aussi étranges que la vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les figures imposées dans lesquelles on va avoir le climax, enfin une montée, le climax, un rétablissement, des choses comme ça. C'est pas possible de fonctionner comme ça. On est dans finalement une écriture qui est tout à fait spontanée et dans laquelle on va découvrir la structure qui se met en place au fur et à mesure que finalement le récit avance. Et j'ai pas plus structuré, donc pour revenir à ta question, j'ai pas plus structuré cette nouvelle que j'ai structuré Le sang des sept rois. C'est à un moment donné, ça fait sens. On avance et à un moment donné, le sens arrive. Voilà.
Alors, Silène, la nouvelle dans l'anthologie Troll et Licorne.
Moi, j'ai travaillé donc sur cette nouvelle Troll et Licorne. J'ai aussi fait des petites nouvelles, un petit recueil de nouvelles, Les Moelleuses au chocolat. J'ai pas travaillé de la même manière sur Troll et Licorne. En fait, je reprends la pièce de Molière, L'amour médecin, que je réécris. C'est le Troll médecin. Donc, je me suis amusée. J'ai fait une variation. Donc là, la structure, elle est là, hein, puisque le travail d'invention, je vais pas à le faire. Molière l'a fait. Hein, donc, il a très bien fait. Et moi je brode à partir de ça, je transforme mon médecin en troll, Lucinde et Sganarelle sont des licornes, donc après justement je peux y mettre un discours sur la littérature qui m'intéressait, c'était l'objectif, hein. C'était tenir un discours sur la littérature populaire qui me tenait à cœur. Parce que comme pour Régis, ce que je trouve merveilleux quand on vous demande de faire une nouvelle comme ça, c'est qu'on vous donne une petite portion de liberté. Vous pouvez faire autre chose, quelque chose de différent. C'est pas un investissement aussi important que sur un roman. Et c'est l'occasion de s'essayer à autre chose. Sur les nouvelles au chocolat, c'était différent parce que j'avais dans l'idée de faire un recueil. J'en avais fait deux et puis mon éditeur me dit « Écoute, elles sont bien ces deux nouvelles, j'aimerais que tu m'en fasses encore quatre ou cinq de plus, on fait un petit recueil. » Et alors là, autant je structure d'habitude sur les romans, autant sur les nouvelles, le fait qu'il y ait des contraintes, fait que après le reste je laisse il y a la contrainte du chocolat parce que c'était les moelleuses au chocolat, la contrainte de l'érotisme parce que ce sont des petits textes sensuels, et puis le fait que ce soit court, enfin bref, tout ça c'est déjà, ça cadre bien. Donc après, une fois que j'avais l'idée de départ, j'ai laissé porter et j'ai fait des petits textes, je me suis laissée aller. Je suis très contente de ça parce que j'ai beaucoup de mal à... Je suppose que mon psy aurait sans doute plein de choses à raconter là-dessus. J'ai du mal à laisser libre cours, mais dans la nouvelle, comme de toute façon on a déjà des contraintes fortes, c'est l'occasion aussi de laisser un petit peu la parole courir, ce qui me semble vraiment intéressant. Et quand on est... sur 7 fois de suite sur le même thème avec les mêmes contraintes, c'est très rigolo, justement toujours sur cette variation, ça rejoint peut-être le troll médecin de hop, on va essayer de faire différentes choses, on va essayer différents choix, j'ai des femmes de différents âges, elles ont toutes des points communs, mais je m'en amuse, voilà. Et c'est très agréable, j'espère que du coup ça a fait rêver parce que finalement celui qui va lire le recueil entier peut se dire ah, et là alors bon ok, elle part cette fois avec une femme comme ça, qu'est-ce qu'elle va en faire, comment ça va se finir pour que ce soit pas pareil que la nouvelle d'avant.
Et alors est-ce que le fait de travailler justement sur des nouvelles des formes courtes dans lesquelles on peut s'essayer à plein de choses, on peut s'entraîner, est-ce que c'est pas un exercice intéressant dont on peut retirer une certaine expérience qu'on va réinvestir dans des formes plus longues?
Juste, moi sur les moelleuses, typiquement, j'ai dans Lève en chocolat, c'est un texte qui m'a tellement plu, qui continue à me poursuivre, et en fait, je vais m'en servir comme point de départ pour carrément une tétralogie. Donc oui, en effet, là, la nouvelle, j'ai pas envie de la lâcher. Cette idée, finalement, parmi toutes, j'ai vraiment envie de la poursuivre, et comme je disais tout à l'heure, avec ce pouvoir du romancier, hein, d'aller au bout d'une histoire, de se dire, et si C'était comme ça. Là, vraiment, et si cette nouvelle, en fait, elle était le point de départ d'une génération de femmes en chocolat?
Pour l'instant, non, parce que je suis pris quand même dans une assez grosse affaire et faut quand même que j'arrive à terminer ça à peu près dans les temps qu'on s'est fixé avec l'éditeur. Mais par la suite, pourquoi pas? C'est vrai que ce qui est intéressant dans l'idée des nouvelles, même si je suis pas un novelliste confirmé, c'est que ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes parce qu'on a la possibilité, de manière assez légère, sans investir 3 ans de sa vie dans un univers, de créer des univers différents. Il est possible que ensuite, en y réfléchissant bien, en laissant passer un petit peu de temps, les univers s'avèrent plus ouverts qu'on les a conçus. Je sais que pour en avoir discuté avec d'autres auteurs, il arrive qu'une nouvelle, comme ce que tu disais, donc arrive, débouche finalement sur des projets plus importants en termes de volume. Je verrai. Voilà, je verrai.
Oui, et moi je parlais aussi de la nouvelle en tant que vraiment exercice de style, là pour le coup, qui permet de faire sur une forme courte des trucs qu'on n'aurait pas fait dans un roman ou de...
Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent. Et pour l'instant, moi, j'arrive pas. Je considère vraiment comme deux approches différentes parce que quand j'écris une nouvelle, j'ai tout sous la main, tout sous les yeux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je suis perdu, j'imprime, j'ai tout sur mon bureau, les 20 pages sur mon bureau, et je peux les déplacer, découper, etc. Là, actuellement, j'ai écrit 2400 pages sur le 117.3. Si je veux remettre de l'ordre, il me faudrait un très grand bureau. Autrement dit, on n'a plus une vision globale, détaillée de ce qu'on a réalisé, on n'a plus tout sous les yeux. Et la technique est forcément complètement différente. Quand on travaille aussi sur une nouvelle, on peut la relire, la recorriger en 10 fois. Faire très attention aux détails, au vocabulaire. Il est bien évident que quand on sort donc 2 volumes de 400 pages par an, on va être beaucoup moins scrupuleux. C'est pas possible de donner autant de détails. Donc techniquement, je trouve que c'est une approche qui est extrêmement différente. Et pour moi, c'est aussi différent que d'écrire de la poésie ou un almanach des PTT, quoi. C'est deux exercices complètement différents, je trouve, même si on est dans le romanesque, parce que on est d'un côté dans la course de fond et de l'autre côté dans du sprint, sur lequel on peut analyser chacun, précisément chacun des gestes qu'on va faire.
Et je voulais revenir à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, Silène, au départ, en parlant de Adèle et les noces de la reine Margot, c'est que vous avez essayé de chercher un petit peu tout ce qui s'était dit ou écrit en allant chercher sur un certain nombre d'autres arts, finalement, pas que l'écrit. Est-ce que tous les deux, notamment Régis, il y a des choses que je sais au niveau de justement des arts plastiques. Est-ce que le fait d'aborder d'autres arts que l'écriture, ça peut aussi enrichir votre propre écriture ?
Moi, je suis nourrie de cinéma. C'est quelque chose de très important. D'imaginer ces scènes, de les mettre en scène dans ma tête. J'aimerais être capable de faire du théâtre, d'être dramaturge. Je travaille énormément sur le théâtre avec mes élèves. J'en ai fait, j'en lis beaucoup. Ça me nourrit aussi dans les dialogues. Je joue mes dialogues. Hein, je me les lis vraiment. D'ailleurs, j'essaye de lire à voix haute pour donner du sens à ce qui est fait. Et pour ce qui est, j'ai touché un petit peu. J'ai commis un peu d'aquarelle et de dessin aussi. Et ça m'a aussi poussé dans l'écriture à travailler sur les sensations, à essayer de pousser ça. D'ailleurs, dans la nouvelle, on a peu de temps, donc on va se concentrer sur des petites choses. Dans le roman, du coup, j'ai eu cette envie de remplacer l'image, de remplacer une mise en scène. Et toujours, ces textes, moi, je les vois. Je les vois se mettre en place là, devant. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est que de toute façon, surtout aujourd'hui, on a accès à énormément d'œuvres d'art de tout type. C'est passionnant de s'en nourrir. Et que le lecteur, lui, puisse arriver avec tout son bagage d'images et de se dire qu'il va y mettre encore autre chose que ce qu'on y a mis soi. Et du coup, j'ai choisi cet art de l'écriture avec ce plaisir de pouvoir y mettre tous les autres, alors que j'avais pas l'impression, en dessinant, de pouvoir y mettre autant de liberté pour le public, pour le lecteur, que dans l'écriture. Ah.
Alors, Régis, installe-toi.
Mais, oui, les autres arts sont présents, notamment par exemple sur l'architecture. L'architecture, qui est un domaine que je connais pour être tailleur de pierre dans ma formation initiale. Bon, forcément, quand on décrit des bâtiments, on décrit un château, quand on sait comment ça se taille, c'est plus facile de décrire comment on fait vivre l'architecture. Ça, il y a des bâtiments, effectivement, que j'ai décrits, même à l'intérieur, d'une manière assez précise. Personne ne saura jamais quel bâtiment c'est, mais je suis persuadé que certains d'entre vous passent devant tous les jours. Si je cite, par exemple, juste un exemple emprunté à la peinture, par exemple. À un moment donné, j'ai un personnage qui s'appelle Clarisse et qui se retrouve sur une île dépouillée de ses vêtements, assommée. Et ses marins vont venir la chercher et elle se retrouve donc nue avec ses longs cheveux blonds qui volent dans le vent, une main devant son pubis et une autre cachant ce qu'elle peut de ses seins. Nous sommes chez Botticelli avec la Vénus et elle est les pieds sur les coquillages. Bon, voilà ce que la Vénus de Botticelli est debout dans un coquillage. Il y a comme ça un certain nombre d'allusions à des œuvres d'art plus ou moins connu, qui émaille bien sûr le récit, mais c'est pas pesant, c'est pas un livre d'esthétique ou de didactique, hein. C'est tout simplement des clins d'œil comme ça en passant sur. J'ai aussi un passage à un moment donné sur les bustes antiques. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un buste? Pourquoi finalement on met pas des personnages entiers? Et donc un dialogue qui va y avoir entre Pétrus et puis Orville à ce moment-là. Bon, je m'amuse parfois effectivement, soit en décrivant des lieux que je connais, qu'on peut rencontrer, soit en décrivant parfois avec force détail des modes de construction. Des modes de construction quand les jours sont en train de faire ou quand on traverse un paysage urbain, soit en glissant de temps à autre effectivement des œuvres que j'apprécie particulièrement. Mais ça ressort du jeu plus du gag hein, que de la construction vraiment d'une esthétique littéraire, c'est pas l'objet.
D'accord. Alors on est ravis d'accueillir donc Jean-Laurent Del Socorro qui arrive de la télévision, donc comme je vous l'avais dit. Donc faire rêver son lecteur. Donc Jean-Laurent Del Socorro donc est un jeune auteur français qui a écrit un premier roman très remarqué, Royaume de vent et de colère, dans lequel il nous décrit en fait un événement de l'histoire peu connu qui se passe à Marseille. Donc, si vous pouviez justement nous expliquer un peu en quoi consiste ce pan d'histoire que vous nous décrivez et peut-être répondre à la question, est-ce qu'on peut faire rêver le lecteur avec l'histoire, justement ?
Donc, sur la première partie de la question, donc, le cadre du roman, on est en 1596, on est à la fin des guerres de religion, Henri IV fait la reconquête de son royaume, donc il s'est converti au catholicisme, et une partie du royaume lui résiste, notamment le sud, la Provence, et Marseille, qui est à l'époque une république catholique indépendante, donc c'est un fait historique, et on va assister voilà, aux dernières heures de la république, et, avec tous ces, à travers les yeux de quatre personnages. Donc effectivement, on est sur un cadre historique assez précis. On peut se dire sur ce cadre-là, c'est pas évident d'interpeller au XXIe siècle un lectorat. Après, heureusement ou malheureusement, on est toujours sur des grandes thématiques qui sont d'actualité. On parle de guerre de religion, on parle de ségrégation. On parle d'inégalité homme-femme à travers ce roman-là. J'allais dire malheureusement, parce que ce n'est pas des thématiques qui sont les reflets de notre société au XXIe siècle. Donc l'historique rappelle qu'il y a des choses où qu'on a gagné au niveau social et que ça n'a pas été toujours le cas, ou malheureusement, je pense qu'il y a des combats qui resurgissent, notamment... L'actualité nous montre que par rapport à la religion, il y a encore des thématiques qui sont d'actualité. Donc oui, je pense que l'histoire interroge le... Alors c'est une grande phrase, mais notre histoire qui interroge notre présent, oui, oui. Ça permet de faire rêver notre lecteur.
Et alors, à la lecture du roman, on a l'impression que c'est extrêmement documenté. Donc est-ce que ça a été un gros travail de construction ou est-ce que c'est une illusion?
Alors, je suis pas historien. J'ai fait un minimum de travail de recherche pour que ce soit sincère et crédible. Donc, mais finalement, ça n'a pas été si long que ça. Non, ça n'a pas été un très très gros travail. C'est une période quand même qui est assez documentée, on va dire, de façon assez précise. Après, je pense aussi, je donne une vision. On est sur Marseille. J'ai une vision très parcellaire de l'époque, même si je donne des éléments historiques, des dates historiques très précises. Et je ne rentre pas dans le détail, donc je triche un peu. Donc y a un effet de bluff parfois sur certains passages. Et écoutez, si vous avez l'occasion de le lire, si vous êtes historien de cette époque et que vous voulez qu'on en parle après pour me dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce sera avec très grand plaisir.
Et alors, c'est donc un roman qui s'intéresse à une période de l'histoire, mais qui, curieusement, est écrit de façon très, très moderne, parce qu'il a une structure assez particulière, hein, avec des passages courts, avec des flashbacks. Comment s'est montée la structure ?
Alors, la structure est montée... Le mot est très juste, hein, on est vraiment sur du montage. C'est-à-dire, moi, je travaille, pour faire très synthétique, très court, sans plan. Donc, j'écris de façon non chronologique sur... autour des personnages, donc il y a quatre personnages principaux, quatre voix. Victoire, qui est la chef d'une guilde des assassins. Gabriel, un chevalier catholique qui s'est converti de force au catholicisme. Armand, un magicien et aussi un prêtre. Et Axel, une ancienne mercenaire qui tient maintenant une auberge. Donc voilà, quatre voix. J'écris des morceaux de scènes que j'imagine... sur des thématiques que je veux défendre, comme ça, de façon éparse. Donc, j'ai un énorme puzzle. Cet énorme puzzle, j'essaie de remettre en cohérence sur le cadre des 48 heures, en fait, de l'histoire de Marseille. Une fois que j'ai ça, je casse au milieu, effectivement, pour refaire un énorme flashback sur l'histoire des personnages. Donc, on a un récit à la fois qui est... Donc, c'est des chapitres très courts. Un récit qui est monté comme un clip, de façon très précise, dans une action le jour J. Une rupture qui est force, qui ramène dans le passé, où là on prend beaucoup plus de temps pour raconter l'histoire et l'historique des personnages, et un retour au présent, où j'espère, si j'ai réussi ce que je veux faire, le regard qu'on a sur l'action présente est changé, puisqu'on a maintenant l'histoire des personnages, de pourquoi ils sont là, et de pourquoi ils ont ces interrogations-là, et pourquoi ils ont ces problématiques-là.
Et alors, quand vous êtes arrivé, on était en train d'aborder, puisque autant Régis que Silène avaient un petit peu eu des influences sur d'autres arts, etc. Donc, je sais, enfin, j'ai lu dans votre bio que vous avez notamment fait du théâtre. Et donc, en quoi, justement, cette expérience-là du théâtre a influencé la construction et la narration du roman ?
J'allais dire, là, c'est essentiel sur le montage. Je fais un montage de clipper qui est plus une référence à l'image et au cinéma. L'interrogation au départ, c'est de monter... je suis très attaché à la dramaturgie du texte, c'est-à-dire comment on fait monter une tension, une intensité dramatique sur un texte. Et ça, tout le travail de montage, il est en référence à ça. Il est en référence à un texte théâtral. Donc vraiment, c'est comment je suis dans une oralité, tous les personnages parlent au jeu. Il y a des scènes qui sont ouvertement des scènes de théâtre. Un personnage secondaire qui est Silas, qui apparaît 4 ou 5 fois, c'est des tirades qu'il fait face publique pour rappeler le cadre historique. On est ouvertement comme un chœur dans certaines tragédies grecques. Ou même des tragédies contemporaines. Donc oui, ce travail de dramaturgie, ces personnages qui parlent au jeu, ces monologues qui pourraient être adressés sur une scène, tout ça, c'est l'héritage d'un passé de comédien.
Alors, une dernière question, puisque là, on arrive tout doucement au bout du temps qui nous était imparti. Avec quoi est-ce que vous allez faire rêver vos lecteurs dans le futur ? Quels sont vos projets ?
Moi, bon, déjà terminer cette histoire-là, mais ça va se terminer l'année prochaine, à peu près à cette époque-ci, donc de l'année, en 2016. Alors ensuite, j'ai différents projets. Le 117 Roi, c'est un tome 2. C'est un tome 2, donc il restera le tome 1 à écrire un jour. Donc il s'est construit au fur et à mesure que l'histoire se déployait vers le futur, elle s'est aussi creusée forcément vers le passé. Et donc il y a tout un univers à construire de ce côté-là. Non, ce n'est pas une préquelle, parce que le préquel, en général, c'est un petit bouquin de 100 pages qu'on va mettre pour donner des clés. Moi, je ne sais pas écrire ça, des bouquins de 100 pages. Hein. Donc, il faut s'attendre au pire. Par contre, je ne sais pas si je vais le démarrer directement derrière, hein, parce que ça pourrait être intéressant de changer un peu d'univers et de se confronter finalement à quelque chose d'un peu nouveau et rafraîchissant sur un format un peu plus court entre les deux. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas déterminé, mais il me reste encore, de toute façon, le temps tome 6 et le tome 7 à finir d'écrire et puis à sortir. C'est déjà pas mal de travail pour l'instant. Mais on peut rêver qu'il y aura non pas une suite, mais je dirais une antécédence, si on peut le dire, un antécédent. Voilà.
Alors moi, je travaille pour la jeunesse actuellement sur Mademoiselle de Sévigné, la fille de Madame de Sévigné. Alors pour vous dire, en fait, l'année dernière, j'ai passé l'agrégation de lettres et j'ai dû lire toutes les lettres de Madame de Sévigné qui m'a profondément ennuyée, que j'ai pas aimée du tout. Évidemment, on y trouve son intérêt et puis finalement, j'ai bien gazé dessus à l'écrit. Mais je me suis dit, je vais écrire l'histoire de sa fille. Voilà. Hein, peut-être que je me suis un peu projetée dans cette affaire, donc je vais raconter ça pour la jeunesse. J'ai un projet comme Fortune Cookies et Fêlure pour les adultes, donc Fêlure qui est plutôt rigolo et Fortune Cookies qui est plutôt sérieux. De la même façon, j'ai envie d'écrire un petit diptyque qui se serait loupé sur des loups-garous un petit peu déjantés, un peu pelés. Et de l'autre côté, Banana Bread, qui est l'histoire d'un monsieur écrivain de SF dans le futur, et puis d'un coup la SF c'est plus du tout à la mode, donc on lui dit tu peux t'arrêter, il sait rien faire d'autre. Et donc ce serait deux textes sur le moment où on vous dit t'es un peu vieux maintenant, pas complètement fichu, mais va peut-être falloir penser à une reconversion. Et voilà, ça c'est les textes pour adultes que j'ai envie de faire l'année prochaine.
Sur une échéance peut-être un peu plus courte, il y aura surtout de la nouvelle, où je vais revenir sur un ou deux personnages qui sont dans le roman, parce que j'avais volontairement rajouté à la fin du roman une nouvelle, parce que ça me tenait à cœur d'utiliser différents formats pour faire vivre le temps d'une nouvelle des personnages sur lesquels je voulais revenir. Donc je pense qu'il va y avoir des nouvelles qui sortiront probablement dans des anthologies en fin d'année. Et sinon, il y a une réflexion des premiers travaux de recherche sur un roman. Donc, le cadre historique n'est pas défini, on sera plus sûr de l'histoire contemporaine, pour le coup. Voilà, j'en dis pas plus parce que j'ai pas avancé encore suffisamment. Mais effectivement, un roman historique en préparation.
Merci. Donc, nous allons clore ce débat. On espère que ça vous a intéressé. Donc, je vous rappelle donc les titres des différents ouvrages. Donc, Jean-Laurent Del Socorro, Royaume de vent et de colère. Silène. Donc Adèle et les noces de la reine Margot. À chaque fois j'ai le Adèle et le reste ne veut pas
mais
venir.
Mais oui, mais moi aussi, parce qu'en fait à la base je l'ai appelée Adèle pendant ouais, des années, ouais. et on a rajouté les noces de la reine Margot parce qu'il y avait déjà plein d'Adèle qui existaient.
Donc et évidemment les autres ouvrages, je pense qu'il doit y en avoir d'autres disponibles sous la bulle du livre, je ne sais pas lesquels. Et évidemment Régis Godin avec toute sa saga des Sept Royaumes. Donc vous les retrouverez en dédicace à la bulle du livre. Merci beaucoup pour votre attention et merci à eux. Merci.